Chapitre 40. Maxine ? Maxine ? Ça va ? Lorsque je reprends connaissance, je découvre le visage paniqué d'Emma au-dessus de moi. Péniblement, je tente de rassembler mes derniers fragments de souvenirs avant de me relever d'un bond, bien trop vite pour ne pas déclencher un vertige qui m'oblige à m'asseoir par terre. C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital. Elle a eu un accident. Il faut que j'aille la voir. Il faut absolument que... Je tente de me mettre debout à nouveau, mais je chancelle une fois encore. « Je vais t'emmener », me propose Emma. « Tu es incapable de prendre la voiture toute seule. »« Que s'est-il passé ?» me demande-t-elle tout en attrapant mon sac à main et en m'aidant à enfiler mon manteau. « Je devais retrouver ma sœur aujourd'hui. Elle et son idée d'un Noël en grande pompe. » Mais il y a eu la hernie de l'invité de l'émission de demain et... Bref, il fallait que je m'occupe de ce problème. Ce n'était pas si grave que je n'y aille pas, non ? J'interroge Emma du regard, pour obtenir de sa part une approbation. Ma grand-mère a voulu s'acheter une robe, apparemment, et toutes les deux ont décidé de venir me rejoindre à la radio pour m'extirper de mon bureau. Elles ont eu un accident. Et ma grand-mère est... Elle va... Et ma sœur dit que c'est ma faute. Elle l'a même hurlé. Elle a raison, Emma, j'aurais dû y aller. J'aurais dû tenir ma promesse. Si jamais elle meurt.
Tout va bien se passer, j'en suis certaine, m'interrompt Emma. Tu verras qu'elle va s'en sortir. Peut-être que ta sœur a exagéré sous le coup de la peur. On peut dire n'importe quoi sous le coup de l'angoisse, des mots que l'on ne pense pas vraiment. Et peut-être que les médecins l'ont placée dans le coma uniquement pour éviter qu'elle souffre.
Je m'accroche à ces paroles positives comme à une bouée de sauvetage. Je ne supporterai pas d'enterrer Mone une seconde fois. Dans cette vie parallèle, elle ne peut pas mourir. Elle n'a pas le droit de mourir. Sinon, à quoi bon ? Une fois à l'hôpital, je laisse Emma se renseigner sur le service dans lequel se trouve ma grand-mère. Je suis incapable de prononcer la moindre parole. Pendant tout le trajet, les propos de Laetitia ont tourné et retourné dans ma tête. Alors qu'il me semblait les avoir oubliés, les images de l'accident de voiture, celui où je conduisais, me sont revenues avec violence. Comme au ralenti, j'ai assisté de nouveau à l'intervention des secours, ma couverture de survie sur le dos, la désincarcération, le massage cardiaque, les gestes qui s'interrompent, les mines qui s'assombrissent, et puis le « Nous sommes sincèrement désolés, mais malgré tous les soins prodigués, elle n'a pas survécu », que personne n'a envie d'entendre. Hébétée, je réalise à peine qu'Emma me conduit vers le service de réanimation dans lequel Mone a été admise. Comme extérieure à la situation, je la regarde frapper doucement à la porte de la chambre 554 et l'ouvrir sans bruit. Ma sœur est là, sur une chaise à côté du lit, les yeux rougis par les larmes. Et puis mon regard se pose sur Mone. Reliée à toutes ces machines qui la maintiennent en vie, elle me paraît pâle et fragile.
« Je te laisse, » murmure Emma. « Je vais prévenir le boulot que tu ne seras pas disponible demain. Ne t'inquiète pas pour ça. »
Mon émission de radio, mon travail, si important pour moi il y a à peine quelques heures, m'apparaissent désormais comme des détails. Alors qu'Emma referme la porte, j'avance de quelques pas.
« Qu'est-ce que tu fais là ?» me lance Laetitia sur un ton méchant que je ne lui ai jamais entendu. Tu crois que tu n'en as pas assez fait ?
Laetitia, je...
Quoi ? Tu vas dire que tu es désolée ? Que ce n'est pas ta faute ? Bien sûr que ce n'est pas ta faute puisque c'est moi qui conduisais. C'est moi qui étais au volant de cette fichue voiture. Si elle meurt, je pourrais crier haut et fort que j'ai tué ma grand-mère.
Je comprends tellement ce qu'elle ressent en cet instant que la douleur me comprime les poumons.
Mais ça n'aurait jamais dû arriver, poursuit-elle, parce que tu aurais dû être là. « Comme tu t'y étais engagée, nous n'aurions jamais eu d'accident si tu n'avais pas pensé qu'à toi. »«
Tu es injuste, Letty. Même si je n'ai pas pu m'empêcher de tenter de me défendre, je le regrette instantanément devant le visage déformé par l'angoisse de ma sœur. »«
Injuste ? Moi, injuste ? Mais qui essaie de maintenir les liens entre les membres de cette famille ? Qui ? Tu crois que je n'ai pas un boulot prenant, moi aussi ? Que je ne passe pas des heures et des heures dans mon cabinet ? Et pourtant, je trouve du temps pour les gens que j'aime, parce que c'est important, plus que tout. Alors non, excuse-moi, je ne suis pas injuste, c'est toi qui ne veux pas regarder les choses en face. Nous sommes interrompus par une infirmière qui demande à Laetitia de venir remplir quelques documents administratifs. Elle quitte la chambre sans un regard pour moi. Est-ce elle qui a raison? Est-ce moi qui ne veux pas admettre la vérité? Cette vérité qui fait qu'en à peine 2 mois à évoluer dans cet univers parallèle, il y a désormais une seule Maxine. Celle que l'on m'a décrite lorsque je me suis réveillée dans cette vie et que pourtant je m'étais jurée de changer. Suis-je finalement devenue celle que je ne voulais pas être? Bien sûr, je pourrais me trouver des circonstances atténuantes, me dire que 2 mois, ce n'est pas beaucoup pour essayer de changer les choses, que si j'avais eu plus de temps... Mais la réalité, c'est que mes promesses et résolutions de départ se sont bien vite envolées. Je n'ai pas vraiment essayé de faire différemment. J'ai laissé mon quotidien professionnel prendre toute la place. Pire, je reprochais à Laetitia de ne pas le comprendre. À mon tour, je m'assois sur la chaise et prends précautionneusement la main inerte de Moon dans la mienne. Pendant de longues minutes, je regarde sa poitrine se soulever au rythme des bips des appareils médicaux. Et je pleure, comme il y a 3 ans. Et si elle meurt? Qui sera là pour moi? Jasper, sans doute. Il m'aime, je le sais. Mais la famille n'a jamais eu pour lui l'importance qu'elle a pour moi, ou qu'elle avait. Comment ai-je pu changer à ce point? Avant, j'aurais attrapé mon téléphone et appelé Samia ou Audrey. Les deux auraient tout lâché pour venir à mon secours. En quelques minutes, elle se serait retrouvée à mes côtés. Elle m'aurait dit que je pouvais compter sur elle, que je ne devais pas avoir peur. Elle me manque cruellement. En ce moment, comme à chaque instant des semaines passées. Là, à côté de ma grand-mère que j'aime plus que tout et qui pour le moment est encore en vie, je réalise que j'aurais voulu ne jamais être projetée dans cette vie parallèle. Je tiens sa main fermement dans la mienne. Elle est chaude et douce. Et pourtant, les souvenirs de mon ancienne vie ne cessent de m'envahir. Les soirées passées au Blues Pub avec Samia et Audrey, les explorations culinaires de Claudia, la chaleur de Darcy couchée sur mes jambes sur le canapé, les discussions philosophiques de comptoir avec mon frère, mes séances entre sœurs avec Laetitia. Toutes ces images tournent autour de moi. Je revois leurs visages, j'entends leurs rires, je ressens le manque de leur présence. C'est alors que je sens ses doigts remuer. Faiblement, presque imperceptiblement. Moon? C'est moi, Moon. C'est Maxine. Tu es à l'hôpital, tu as eu un accident. Bientôt, je sens nettement les mouvements de ses doigts. Laetitia! Laetitia! Elle se réveille! Laetitia! Alertée sans doute par mes cris et par les bips des machines qui se déchaînent, une infirmière arrive en trombe et m'éloigne de force du lit pour examiner ma grand-mère, agitée de petits soubresauts. Laetitia la suit de peu. « Elle ne va pas mourir, Laetitia! Elle ne va pas mourir !» Je fais un pas vers ma sœur pour la prendre dans mes bras, mais d'un geste de la main, elle m'arrête dans mon élan. Elle me regarde un instant, le visage fermé, puis elle se détourne pour s'approcher du lit de Moon qui a repris pleinement conscience. La joie, le soulagement et la peur s'entremêlent. Moon ne mourra pas une seconde fois. Je savais que dans cette vie-là, elle ne pouvait pas mourir. Et pourtant, l'évidence est là qui me donne envie de vomir. Au fond de moi, je le sais, je donnerais n'importe quoi pour retrouver ma vraie vie, celle d'avant, celle dans laquelle, pourtant, elle est décédée. Pardonne-moi, Moon. Devant ma grand-mère qui compte tellement pour moi, je me déteste pour ce choix que je ferais sans hésiter si je le pouvais.